Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Philippe Askenazy, économiste au CNRS, qui a publié Partagé les richesses chez Odile Jacob. Xavier Jaravel, professeur à la London School of Economics. Xavier Rago, président de l'OFCE, auteur de Civiliser le capitalisme chez Fayard. J'ai un auditeur qui s'appelle Julien qui dit l'OFCE est indispensable à votre plateau. Objectif rationnel mesuré, super intéressant. Alors j'en ai aussi certains.
Ça doit être un collègue.
Non, je ne sais pas. Je vais être honnête. J'en ai aussi certains qui me disent ça suffit l'OFCE, parce que c'est vrai qu'il y a Xavier Rago, il y a Xavier Thimbault, il y a Eric Heyer, il y a Mathieu Plane qui viennent assez régulièrement dans cette émission. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme réaction ? La réaction de Titi Gentil. Une alternative simple et plus efficace, parle de bouclier tarifaire, assurer un revenu minimum à la population la plus défavorisée. Voilà. Oui, mais... Et là, on supprime toutes les autres aides. On laisse les Français optimiser en fonction des contraintes prix.
Ça, c'est l'idéologie d'avant. Malheureusement, si on fait ça, on massacre la classe moyenne inférieure. C'est l'effet de seuil. C'est qui la population défavorisée ? Voilà.
C'est
notre problème sur lequel on bute. C'est qu'il n'y a pas que la pauvreté maintenant. La classe moyenne, vous avez cité les effets de seuil. On a vu dans le système socio-fiscal français, il y a la classe moyenne inférieure, décile 3-4. C'est des gens qui sont un peu au-dessus, peut-être même parfois du salaire moyen. Ceux-là, il faut pas les oublier.
Mais vous savez qu'à chaque fois que je fais des chroniques ou j'annonce une nouvelle aide, chaque fois j'ai des quantités de tweets. J'avais un jour ouvert l'émission avec tous ces gens qui me disaient tous la même chose. J'en ai marre de bosser et de payer pour les autres et de jamais rien toucher. C'est ces gens-là dont vous parlez. Hein. Voilà. Les gens qui sont un peu en dessous du salaire moyen, sont à 1009, 2000 par mois. Et
Ils perçoivent aussi. Donc je ne m'associerai pas à cette radicalité du discours. Bon. Mais il y a un vrai sujet politique. Il y a quelque chose, effectivement, il touche moins que les autres.
J'avais mis dans ma petite liste que j'envoie à 7h45 à mes invités, là, mon SMS fleuve chaque matin, j'avais mis qu'Elisabeth Borne veut accélérer France 2030, Xavier Jaravel. Elle veut que 20 milliards sur les 54 milliards soient engagés dès 2022. Mmh. Et ça vous fait réagir.
Oui, juste pour rappeler que donc France 2030, c'est sur environ 10 ans. Mmh. C'est une enveloppe de 50 milliards qui avait été décidée il y a environ un an. Donc là, c'est le premier anniversaire des dispositifs. C'est un plan ambitieux et en même temps assez faible en termes de montant par rapport à l'aide aux ménages. Donc je trouve ça intéressant de garder ce sens des proportions. Ce qui est intéressant dans l'idée d'accélérer, c'est toute la partie qu'ils appellent talent dans la partie France 2030, c'est-à-dire formation pour telle et telle filière d'avenir. Par exemple, il y a des éléments liés au nucléaire. Et donc, c'est une partie qui semble, du plan qui semble particulièrement importante dans la période actuelle de tension sur le marché du travail. Un élément aussi qui frappe sur le plan, c'est du point de vue de l'évaluation et en fait du manque d'évaluation in itinéré. C'est-à-dire que au bout d'un an, on a donc fait plusieurs appels à projets. Mmh. Et donc, on aurait pu se dire, on va tester ce qui marche, ce qui marche pas, et ensuite redéployer les crédits ou les modalités d'intervention vers ce qui marche le mieux. D'autres pays le font. Dans France 2030, par exemple, il y a beaucoup d'interventions sur les sujets liés au changement climatique. Aux États-Unis, ça a été fait dans la crise de 2008. Un peu la même idée. On fait un plan d'investissement pendant une crise. Et ils ont fait cette évaluation in itinéré. Et ils ont vu des choses assez simples. Par exemple, intervenir beaucoup plus tôt dans le cycle de vie d'un projet sur des questions liées à des prototypes où le secteur privé ne peut pas apporter des financements. Ça a un effet d'entraînement important. C'était difficile d'en être convaincu a priori, mais au fur et à mesure, ils ont fait l'analyse. En l'occurrence, c'était avec des universitaires de l'Université de New York. Et ensuite, ils ont décidé d'arrêter d'autres parties qui étaient trop tard dans le cycle de vie d'un projet, pas utile.
Ça semble rationnel.
C'est quelque chose qu'on ne fait
pas. Continuer ce qui fonctionne et arrêter ce qui ne fonctionne pas.
Mais en fait, il faut vraiment le mesurer in itinéré. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. Nous, on a des indicateurs de suivi, des grands objectifs, par exemple, faire le premier avion bas carbone, ce qui est important aussi en termes de se fixer une ambition et rassembler toutes les forces vives pour atteindre ces grands objectifs. Mais il y a cet aspect in itinéré qui est très important et pour l'instant un peu absent.
Considérez qu'on est hors des clous Enfin, je ne sais pas là si vous voulez réagir.
En termes de montant ?
Mais non. En termes de montant, il y a un chiffre qui m'a frappé. On a, sur le quinquennat précédent, on a quand même consommé 40 milliards d'euros pour supprimer la taxe d'habitation. Et on a mis 1 milliard d'euros sur l'investissement dans l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'il y a parfois quand même des montants, quand on compare même à des grandes multinationales comme, Samsung. On est quand même là, effectivement, sur les montants, le compte n'y est pas. Et puis c'est vrai que c'est peut-être incapacité à décider de continuer ce qui fonctionne et arrêter ce qui ne fonctionne pas. Xavier Rago, allez-y.
Moi, France 2030, je pense que l'ambition était intéressante. Les montants sont faibles, quand même. Les montants sont faibles. Et je pense que c'est un plan qui a plusieurs composantes, et notamment une composante formation, qui est intéressant, mais c'est ce dont il faut réfléchir, c'est tout le système de formation et d'éducation français. On peut pas mettre avoir ok la formation technique, la formation tout au long de la vie, la formation initiale. Enfin, réfléchir à une projection globale en modisant tous les outils. Là, finalement, il y a quelque chose qui est la France 2030. C'est ambitieux, France 2030. Bah finalement, c'est que ça semble un petit silo de l'action publique, et il y a d'autres politiques qui sont un peu différentes, qui manquent de coordination. Je trouve que ce plan est intéressant, mais il faut être encore plus ambitieux sur la coordination de tous les outils publics pour se projeter, notamment sa formation, ouais, à l'horizon de 10 ans. Et avoir vraiment une réflexion sur articuler ça à la rémunération des enseignants, l'attractivité du métier, la qualification de certains métiers techniques à la fin. Bon, ça manque un peu d'ambition, tout ça, me semble-t-il, même si la direction est la bonne. Et le second point dont je voulais dire, c'est que ce qui manque aussi, c'est vraiment, dans le débat public, une projection à 10 ans. Quelles sont les institutions aujourd'hui qui permettent vraiment de réfléchir à une réflexion dans 10 ans sur la structure du marché du travail, les qualifications, le métier d'enseignant, enfin, et vraiment qu'une structure de coordination projetant à 10 ans. On a l'impression, quand on voit, qu'on lit les budgets, qu'il y a des petits montants à 10 ans et il y a des énormes montants qui gèrent les crises après crise. Le Covid.
Mais là où je suis, là où je rejoins,
on a un déficit d'horizon dans l'action publique.
C'est que il y a toujours un effet d'annonce politique et généralement, justement, d'abord les études d'impact manquent assez régulièrement quand on engage des réformes, quand on engage des actions publiques. On fait les effets d'annonce et derrière on se rend compte que le bilan est généralement à l'arrivée assez décevant. Il y avait les investissements d'avenir de Nicolas Sarkozy. Quand on a essayé de regarder un peu ce que ça avait donné, c'est vrai qu'on c'est pas forcément réjouissant.
Vous voulez rajouter quelque chose rapidement, monsieur, sur le premier point, juste pour bien rappeler que l'idée de France 2030, c'est de lancer des dispositifs qui sont vus comme expérimentaux. C'est un peu des sortes de poches d'argent qui sont assez largement fléchées vers des grands thèmes, mais qui sont assez ouvertes sur le détail des interventions. Et donc, l'idée, c'est d'expérimenter. Normalement, il faudrait pouvoir évaluer pour trouver ce qui marche vraiment bien. C'est pour ça que je trouve que c'est un point qui est assez essentiel vu l'esprit du plan. Mais l'idée, c'est on expérimente, on voit ce qui marche et ensuite, normalement, on intègre ça dans le budget de l'éducation nationale, enseignement supérieur et recherche, si on identifie quelque chose qui marche. Mais cela dit, tout à fait d'accord pour dire que, idéalement, France 2030 aurait aussi une fonction de prospective, qui normalement est celle de France Stratégie, de la DARES sur les métiers en tension que tu évoquais, mais qui globalement est quelque chose qu'on fait infiniment moins que la gestion des crises.
C'est bien Bruno Bonnel qui gère ça maintenant, je crois. Oui. Bruno Bonnel a été chef d'entreprise. On peut imaginer qu'il a gardé quelques réflexes qui ne correspondent pas aux traditionnels réflexes des agents, enfin des hauts fonctionnaires. Là-dessus, Philippe Ascanasi, vous voulez rajouter quelque chose ? Après, on parle de la Grande-Bretagne.
Oui. Alors, je pense que l'évaluation est quelque chose qui est tout à fait utile. Il faut surtout que par derrière la puissance publique tiennent compte de ces évaluations. Or, c'est plutôt ça qui me frappe. C'est-à-dire qu'on a très nombreux dispositifs en France, notamment sur les questions d'innovation, qui ne donnent pas lieu à des changements politiques.
C'est très, très vrai.
Il est clair que, par exemple, aujourd'hui, que le crédit d'impôt recherche, qui, lorsqu'on somme depuis le début du siècle, ça représente, allez, disons, 150 milliards d'euros que l'État a eu de moins en moins de recettes fiscales pour un impact sur la recherche et développement en France qui est loin d'être démontré. Donc, on a eu toute une série de travaux qui ont montré, c'est faible, mais on n'a pas changé le dispositif. Donc, je pense que, en premier lieu, c'est ça, il faut quand même s'interroger pourquoi on met couche sur couche sans finalement remettre en cause des couches précédentes. Et donc, moi, je rejoins tout à fait ce que dit Xavier Rago, il faut peut-être remettre à plat, à la fois des aspects de dispositifs fiscaux, aussi des questionnements de formation, ça c'est très clair. Il y a beaucoup de sommes dépensées aujourd'hui sans efficacité. Eh bien, il faut très probablement un plan global. Et alors, effectivement, on aurait peut-être besoin d'un commissariat au plan, un vrai plan, en quelque sorte, pour mettre...
On a déjà un conseil national de la refondation.
Puis on a un commissaire...
Et on a un commissaire au plan aussi, un haut commissaire au plan.
Oui,
il est tellement...
Vous l'avez beaucoup entendu parler de...
Mais il est tellement haut d'ailleurs qu'il sort des écrans radars, personne ne le voit.
Voilà, peut-être. Donc,
tellement haut commissaire.
On peut en parler. Bon. Enfin, voilà. Il y a un vrai sujet d'efficacité.
Mais il y a aussi, vous avez évoqué, moi je suis très très sensible à la question de l'école, la formation initiale. Il n'y a pas qu'une histoire de milliards dans ce qu'il faudrait faire. Quand vous regardez tous les éléments qui caractérisent les pays les mieux classés dans PISA, ce n'est pas forcément des questions d'argent. Simplement, par contre, ce sont des changements et des mouvements à opérer qui serait socialement très très difficile à faire accepter en France, notamment à... Vous n'avez pas l'air d'accord.
Non, mais regardez, par exemple...
Si je commence à vous dire qu'on met de l'autonomie partout, qu'on paye au mérite, qu'on peut virer les profs quand ils ne sont pas bons et qu'on choisit ceux qu'on recrute...
Là aussi, enfin, lorsqu'on regarde les travaux à l'international, ils sont assez partagés finalement sur ces éléments-là. En revanche, par exemple, l'enseignement des maths au lycée, on a fait... lorsqu'on dit on fait réforme, on a laissé Jean-Michel Blanquer faire cette réforme-là, alors même que l'ensemble des travaux que l'on a en sens de l'éducation et licence associées montraient qu'il faut des maths au lycée. On est revenu quand même par une pression sociale et non pas par des évaluations, etc. Donc, en fait, même, je dirais, on est plutôt même dans une situation où on accumule les erreurs plutôt que de chercher même des améliorations. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on fait des changements, mais qui ne vont pas nécessairement dans la bonne direction.
Je dois reconnaître que, je ne suis pas un spécialiste de l'éducation nationale, mais j'ai l'impression que c'est la réforme permanente à l'éducation nationale. Oui. Et que pourtant, malheureusement, les choses n'évoluent pas forcément dans le bon sens. Souvent, on dit, on utilise un peu à tort et à travers le mot austérité. J'entends encore des gens qui m'écrivent sur la France, c'est l'austérité. L'austérité, avec 155 milliards de déficit en 2023, 270 milliards d'émissions de dettes neuves et anciennes pour refinancer l'ancienne. Les Britanniques, visiblement, Xavier Jarabel, ils y vont. Hein. C'est plus du tout du Listruss, c'est de l'anti-Listruss. Là, cette fois-ci, on serre la vis. Ils ont eu très très chaud quand même, là, il y a un mois. Et quand ils ont vu que les fonds de pension risquaient d'aller au tapis et qu'il a fallu que la Banque d'Angleterre, en catastrophe, sur une période courte, sorte 65 milliards de livres de rachat d'obligations pour éviter que tout ne s'écroule, c'est quand même une situation... et là, on n'est pas dans un pays pauvre, on est quand même dans un pays du G7. Là, 54 milliards de consolidation consolidation budgétaire.
Mmh. Oui, donc qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ça l'austérité.
Qu'est-ce que ça peut nous dire sur notre situation en France? Donc c'est donc les annonces faites d'hier de Rishi Sunak. Donc une cinquantaine de milliards ou je crois 60 milliards de restrictions budgétaires et c'est réparti à 50-50 entre hausse d'impôts et baisse de la dépense. Les hausses d'impôts, c'est notamment sur tout ce qui a trait aux revenus du capital. Et aussi une hausse des impôts du travail pour les plus hauts revenus. Donc, qu'on peut aussi dire être quelque chose de souhaitable du point de vue de la réduction des inégalités, notamment s'agissant de la taxation des revenus du capital. Donc, ça, c'est un premier volet. Et s'agissant de la dépense, c'est pas une baisse des dépenses indiscriminée. En fait, d'ailleurs, une hausse des dépenses prévues s'agissant de l'éducation, s'agissant de la santé. Pour l'instant, le paquet général dit qu'il s'agit en fait de rendre la dépense plus efficace, qui est un peu la manière habituelle de présenter les choses, à voir du coup si ce sera possible, dire on va optimiser tel ou tel processus. Mais donc c'est difficile pour l'instant de vraiment voir là où il y aura de grosses coupes. Et la crainte, c'est qu'il y ait in fine des coupes assez indiscriminées. L'annonce de base, c'est qu'il y a deux priorités, éducation-santé, et le reste, c'est beaucoup sur l'efficacité de la dépense. Ce qui est intéressant, c'est que la Grande-Bretagne, en termes de dette, est plutôt mieux positionnée que nous. Nous sommes 100% de ratio dette sur PIB. Nous, on est à 111, 113. L'Allemagne, à 67%. Et en fait, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'est l'arrivée de Listruss. On a beaucoup parlé des annonces de Listruss qui faisait une sorte de grande relance de fête budgétaire avec une baisse d'impôts sur les plus riches. Et en fait, juste avant cette annonce-là, il y avait eu le bouclier tarifaire qui était beaucoup plus coûteux. Il avait été annoncé 2-3 semaines avant pour la Grande-Bretagne.
Limité à 2500 livres, je crois, la facture.
Et après ça, et avant les annonces de baisse d'impôts, en fait, c'est la Banque d'Angleterre qui a tiré la sonnette d'alarme et dit qu'elle allait moins intervenir sur les marchés. Et donc, de fait, il y avait un risque de hausse des taux. Et donc, en fait, la Banque d'Angleterre et sa décision de restreindre sa politique a joué un rôle vraiment essentiel, peut-être plus encore que les annonces de baisse d'impôts de Listruss. Et donc, c'est pour ça que ça montre bien qu'il y a un impératif à être vigilant sur les dépenses publiques, à bien les cibler. Ça nous ramène au sujet du bouclier tarifaire dans ce contexte inflationniste. Et donc, on verra, s'agissant de la Grande-Bretagne, ce qu'il advient. Il y a beaucoup d'autres sujet en Grande-Bretagne avec le Brexit, grosse dépendance au gaz, donc des taux d'inflation élevés. Il y a une lecture optimiste de cette décision qui est de dire que il n'y a pas le choix dans la situation actuelle, remonter des taux, il faut faire des choix budgétaires, ils essayent de choisir les bonnes priorités, éducation, santé, réduction des inégalités avec les revenus du capital.
Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Ascanavi, Xavier Rago? Est-ce que c'est finalement c'est un cas d'école de ce qui pourrait nous arriver? Faut ouvrir les yeux. Alors nous, on est protégés par l'euro, mais encore. Et là, ça, c'est de l'austérité, de la vraie.
Oui, enfin.
Alors, ou Xavier Rago, oui. Un peu plus près du micro, Xavier.
Alors, un cas d'école d'erreur économique du premier ordre. C'est assez impressionnant.
Ah, mais ça, d'accord. Mais le premier ordre, c'était Listros.
Oui, c'est Listros. D'accord, okay. Non, mais c'est ça le problème.
Il y a aussi la Banque d'Angleterre.
Alors, la Banque d'Angleterre, il y a la Banque d'Angleterre, il y a les institutions de stabilité financière qui sont intervenues pour aider. Donc, c'est une conjonction d'une mauvaise macroéconomie, orientation politique économique, qui a conduit un grand pays à une impasse assez exceptionnelle. Et c'est le même parti, le parti conservateur, qui envoie une Liz Truss qui fait une baisse d'impôts sur les plus riches. Le pays est quasiment au bord de la faillite internationale.
Ah bah oui.
Et deux semaines après, le même parti envoie Rishi Sunak qui fait une hausse d'impôts sur les plus riches sans élection entre-temps. Donc on est quand même, et c'est ça que je retiens, c'est que nos économies, les économies capitalistes soumises à un tel choc, on revient aux fondamentaux de l'orientation de la politique économique pour sauver les pays. Comme l'Angleterre, qu'on disait le pays modéré, le pays du dialogue, et d'un pragmatisme libéral. Là, le passage de Liz Truss à Rishi Sunak monte peut-être deux extrêmes. Je ne suis pas convaincu. Bien sûr, il faudra consolider le budget de l'Angleterre, mais le montant des mesures, moi, mon pari, c'est qu'ils ne seront pas capables de faire les mesures qu'ils ont citées. C'est trop important. C'est trop important. Oui.
C'était pas possible dans un sens et ça l'est pas non plus dans l'autre.
J'espère que l'entièreté de ces mesures va pas être mise en œuvre. Souvent, il y a des effets signaux, on annonce des mesures.
Oui, il y a aussi.
Et c'est le cas aussi pour l'Allemagne. Il y a 200 milliards d'aides, ils vont pas les dépenser.
Oui, bon, donc c'est pas possible.
Je pense que l'effet récessif sur la population anglaise qui subit déjà le choc inflationniste importé va être grave, alors qu'il y a un peu plus de marge budgétaire, ce qu'a rappelé Xavier Ravel. Ils ont quand même une dette sur PIB légèrement inférieure. Donc je pense que le pays, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça paraît un truc de sérieux budgétaire, mais les conséquences en termes de baisse du niveau de vie des ménages anglais, qui perdent 10 années de pouvoir d'achat, et là les anticipations du pouvoir d'achat sont inférieures à celles de 2013. C'est un choc colossal de pouvoir d'achat négatif qu'ils n'ont jamais connu depuis l'après-guerre. Là, ce n'est pas encore dans la réalité des porte-monnaies des ménages anglais. Je pense que ça va tanguer de manière très très importante dans quelques mois. Et je pense qu'ils vont un peu trop loin pour contrebalancer l'erreur économique de Liz Truss. Donc j'espère qu'ils feront la moitié du chemin pour nos amis anglais. Oui, il faut stabiliser les comptes, mais pas à cette mesure.
D'accord.
Nous, Européens, nous avons appris dans la crise d'aide publique 2012. Si on va trop vite, trop fort, on casse la croissance,
c'est
on fait augmenter.
Il faut reconnaître que c'est vrai.
Donc qu'ils reviennent un peu de pragmatisme après l'extrême de Liz Truss.
Mais le sujet social en Grande-Bretagne est tout à fait fascinant. Moi, j'ai vu des chiffres. Il y a un ménage sur deux qui préfère finalement manger des plats préparés parce que ça évite d'allumer la gazinière, par exemple. Quand même, et je ne sais plus combien ne font plus qu'un seul repas par jour. C'est quand même assez surprenant. Vous voulez ajouter quelque chose, Philippe Escanasi? Parce qu'après, je voulais vous entendre sur les retraites.
Oui, mais je pense que c'est important. Voilà, le cas britannique et le cas français sont quand même assez différents hein, d'un point de vue institutionnel. Et il y a quand même un fait, c'est les annonces de baisse massive des impôts qui ont cassé une partie de la crédibilité britannique. Je pense que la France, justement, enfin, ça peut vous paraître paradoxal, mais le fait que la France soit un pays qui fasse rentrer des impôts lui donne une crédibilité financière. Voilà.
C'est la raison numéro un de la confiance que l'on a et de l'appétit que l'on a dans les obligations françaises.
Et je pense que le signal que donnait Liz Truss, c'est même dans une situation difficile budgétaire, etc., parce que par idéologie politique, on ne va plus faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, était un signal absolument catastrophique d'un point de vue de politique monétaire. Et le second point, c'est que quand même dans cette mécanique où il y a eu une sorte d'emballement et de panique, par derrière, il y avait le fait qu'il y avait des fonds de pension britanniques. Alors c'est un petit peu difficile à expliquer, mais lorsque les taux sont bas, ces fonds de pension utilisent des outils qui sont rémunérateurs avec des taux bas, et lorsque les taux augmentent, ils changent de type d'outil. Et donc lorsque il y a eu ce run, les taux sont envolés, ils ont dû changer d'outil en urgence, ce qui a encore plus renforcé l'effondrement de la livre et l'augmentation des taux d'intérêt. Donc il y a aussi une fragilité qui vient même du fait qu'ils ont un système de pension qui repose beaucoup sur ces fonds de pension privés, qui est un autre élément
de fragilité. Le message, c'est
Arro
sur la capitalisation pour les retraites.
Non, c'est dire ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a ce type d'outils, il faut faire très très attention au type de politique que l'on mène. Et ça me demande également une coordination avec la Banque centrale. Et c'est aussi une des faillites britanniques, c'est que la Banque centrale n'avait pas été dit-elle en tout cas, mise au courant des annonces qu'allait faire Liz Truss. Donc il n'y avait pas du tout de coordination. Donc simplement le signal, c'est que lorsqu'on crée un système de cet ordre-là, eh bien il faut une politique responsable. Oui. Ça demande des éléments de coordination. Et les Britanniques, eh bien c'est quand même une faillite politique, bien plus qu'une faillite finalement de la Grande-Bretagne. Et effectivement, ceux qui vont payer au bout du bout, ce sont les citoyens britanniques, parce que ce que l'Office of Business Responsibility, les chiffres qu'ils ont sortis sont absolument dramatiques.
Ah, c'est Ken Loach,
sur le...
c'est Ken Loach.
Ah, mais totalement, oui. Sur...
Non, mais c'est vrai.
Mais cela sur plusieurs années, c'est pas un choc 2023, c'est vraiment un choc de long terme sur les Britanniques.
C'est Larry Summers qui avait indiqué, enfin, il avait eu cette, après les annonces de Liz Truss, il avait parlé de la plus grave erreur de politique économique de l'histoire, quand même. Dans les 24 heures qui avaient suivi les annonces.
Ça, c'est important pour nos éditeurs. Hein, on peut faire des grosses bêtises par idéologie.
Ah oui, oui.
Un peu d'économie, ça aide.
Je ne suis pas sûr que les 35 heures, on le referait, par exemple.
Je ne dis rien là-dessus.
Ça, c'est autre chose.
Ouais, voilà. Bien placé, encore... monsieur Nicolas Dose.
Franchement,
c'est tout à fait autre
franchement chose. Je pense que François Mitterrand, quand il abaisse de 65 à 60 ans l'âge de départ de la retraite, c'est plus un choix politique qu'une logique purement économique. Bon,
juste pour dire, parce qu'on évoquait l'OBR, l'Office of Budget Responsibility, qui donc fait ses projections. Ouais. Et juste pour, parce que ça rejoint un peu ce que disait Philippe Eskenazi au début, sur le fait qu'en France, le Parlement n'a pas vraiment d'outils pour faire ses projections.
Il l'a dit gentiment, mais enfin, ouais. Il a dit quand même qu'on était mauvais. Hein, Philippe.
Le système anglais, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont cet institut qui est à mi-chemin entre l'exécutif et le Parlement. Et ils ont accès à toutes les ressources internes des administrations, donc ils peuvent vraiment faire des prédictions très solides. Et du coup, effectivement, la situation actuelle n'est pas rose, c'est le moins qu'on puisse dire. En France, personne n'est vraiment dans une situation comme ça où on y a accès à toutes les infos et en étant indépendant et en pouvant faire ce type de projection. Et donc ça, c'est un autre enjeu qui semble important. Et donc oui, il y a eu des erreurs de politique économique, mais à nouveau, j'insiste sur le fait qu'il y a eu la décision de la Banque d'Angleterre qui peut-être...
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je voudrais insister là-dessus, Xavier.
Ouais. C'est la remontée des taux.
Vous avez tout à fait raison, mais... C'est fini l'indépendance des banques centrales, c'est ça que ça veut dire. Parce que normalement, je suis désolé, l'exécutif n'a pas envoyé son budget à la banque centrale avant. L'institution est faite justement pour cloisonner.
Mais précisément, là
on voit l'échec de ce cloisonnement. De facto, sans le dire, on sera obligé de dire à la banque centrale, maintenant, tu as une gestion sur la stabilité du marché de la dette publique.
Ou l'inverse.
Assurer la liquidité de la dette publique.
Ça, c'est la version peut-être la version BCE. Ou alors, on peut voir les choses à l'inverse et dire, c'est un exemple qui montre que c'est la fin de la dominance fiscale. La Banque d'Angleterre a pris ses responsabilités, elle a décidé d'augmenter les taux. De telle manière que ça a forcé un changement à presque à 180 degrés de la politique budgétaire britannique.
Effectivement, il faudra choisir le modèle.
Et la BCE est dans une autre situation avec le problème de la dette italienne, le swap avec la dette allemande. Et donc c'est pour ça qu'on peut voir cette situation comme un signe avant-coureur de problèmes qui peuvent nous arriver, même si on ne fait pas d'erreur.
Avec une austérité inédite dans l'après-guerre sur les citoyens anglais comme conséquence de ce paradigme qui me semble qui ne va pas tenir socialement.
Il y a des économistes aujourd'hui qui défendent l'idée que finalement les banques centrales reviennent à leur mission initiale d'il y a plusieurs siècles, qui est plutôt le financement des États plus que le contrôle exclusif de la stabilité des prix. Vous connaissez Jean-Marc Daniel, c'est bien une position qu'il défend.
Ah bon ?
Oui.
À l'inverse.
Ah mais. Ouais. Alors je ne sais pas, j'ai un auditeur qui dit qu'aujourd'hui mon plateau est d'extrême gauche. Il faut exagérer. Voilà, alors du coup, bon. Il s'appelle Claire. Ah oui, alors sa photo de profil, c'est Éric Zemmour. Bon. les retraites, on va dire un mot des retraites. Je ne sais pas si on pourra parler de l'Inflation Reduction Act. On n'a pas beaucoup d'infos. On sait que c'est l'été 2023, Philippe Eskenazi. En fait, les trois choses que l'on sait, c'est que la retraite minimum sera supérieure à 1100 euros, probablement 1130 euros. On sait que les fonctionnaires sont épargnés. Ça a été très clairement dit. Et qu'on fera la clause du grand-père pour éteindre les régimes spéciaux. Ça veut dire que seuls les nouveaux embauchés auront un régime plus classique, mais que tous ceux qui aujourd'hui sont sous statut le garderont définitivement. Ça vous inspire quoi ?
Juste quand même un mot, les fonctionnaires épargnés, non, les négociations sont en cours actuellement entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Et très probablement, de la même manière qu'il va y avoir un report peut-être de 2 ou 3 ans de l'âge de départ légal à la retraite pour le secteur privé, il va y avoir la même chose dans le secteur public. Donc là où il est épargné en quelque sorte, c'est que on restera avec un système public à côté du secteur du système privé. Mais il vient de sortir.
C'est souhaitable d'ailleurs, je pense.
Il vient de sortir un dossier de l'adresse extrêmement précis.
J'ai vu ça, oui.
Voilà, qui montre que finalement les deux systèmes sont à peu près équivalents et que surtout si on basculait le système public vers le système privé, qu'est-ce qui se passerait? Vraiment à la hache, les hauts fonctionnaires gagneraient et les profs perdraient massivement. Je pense que c'est pas dans le pacte social de la fonction publique quelque chose d'acceptable. Donc, on va avoir certainement encore deux systèmes parallèles, mais les deux vont subir de manière directe ce report de départ de l'âge de départ à la retraite, ce qui signifie par exemple pour un fonctionnaire comme moi dans au CNRS, un âge de départ normal à la retraite de 71 ans. Donc, on aura le temps d'être
comment ça se fait 11 ans?
Ben oui, parce que c'est 68 ans actuellement. Vous avez des gros écarts selon les types de professions. Et puis, un point quand même, tout à l'heure, vous parliez de ces classes moyennes, inférieures, là, qui ne touchent pas, etc. Or, il se trouve
ceux qui bossent, qui payent des impôts et qui n'ont rien.
Eh bien, enfin, lorsque vous regardez, il y a une surreprésentation de cette population-là sur les 50-65 ans. Pourquoi ? Parce que ce sont ceux qui ont eu des carrières légèrement ascendantes et qui se retrouvent dans ce bloc-là, y compris parmi les fonctionnaires. Et c'est ceux-là qui vont être les plus touchés par la réforme des retraites. Donc, c'est, je crois, s'il s'agit d'un sujet essentiel, c'est celui-là, aujourd'hui, les 50-65 ans, qui ont voté d'ailleurs étonnamment très majoritairement Macron et qui vont être les premières victimes entre guillemets de cette politique-là, et donc on va avoir une nouvelle question sociale qui va émerger à la fois pour les fonctionnaires et pour les agents du privé.
Mais ce qui énerve toujours, c'est cette retraite calculée sur les 6 derniers mois pour la fonction publique quand ce sont les 25 meilleures années pour le secteur privé. C'est un peu le
oui.
Si vous avez un mot, on a 50 secondes si vous voulez dire un mot là-dessus, mais non, vraiment le mot de la fin, Xavier Rago.
Pour faire contredire votre le tweet qui dit que je suis dans le cadeau extrême gauche. La question de la réforme des retraites, c'est une question qui se pose sur l'acceptation d'une augmentation des durées de cotisation par rapport à l'âge sur les professions. C'est une question légitime. Là, la façon dont est rentré par une augmentation de le critère d'âge, c'était une mauvaise entrée qui a radicalisé. Si on prend du temps de réfléchir à quelle est la perspective de vie qu'on veut donner à nos enfants et les cotisations avec une espérance, il faut se donner le temps d'une vraie réforme. Il ne faut pas aller vite. Bon. Et cette question du débat, elle sera essentielle.
En tout cas, il a habilement, Olivier Dussopt, évité deux sujets dans l'interview qu'il a accordée. En tout cas, on ne lui a pas posé la question. Il n'est pas question de l'âge de départ à la retraite. Il n'est pas question non plus de la durée de cotisation. Voilà, comme ça. Bon, merci d'avoir été là. Philippe Askenazy, Xavier Jaravel, Xavier Rago. Rendez-vous lundi, 9h.